Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter notre podcast Escale. Cette semaine, avec 7 jeunes âgés de 20 à 30 ans, nous verrons comment ils envisagent le monde post-Covid. Face à une crise sanitaire, environnementale, climatique et sociale, la jeunesse d'aujourd'hui se trouve confrontée à un avenir plus sombre que jamais. Les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur l'économie mondiale ne les rassurent pas plus autant. Dans ces conditions, comment la jeunesse d'aujourd'hui envisage-t-elle l'avenir? Pour essayer d'y répondre, Frédéric Bedos, journaliste et présidente de l'ONG Projet Imagine, qui tente de porter un regard constructif sur le monde, s'est entouré de 7 jeunes vivant sur 3 continents. Ils ont abordé un grand nombre de thèmes allant de la politique à l'écologie, l'égalité des sexes ou encore la discrimination et le racisme. De notre côté, nous nous sommes demandé comment les 20-30 ans voient le monde post-Covid. Parmi ces 7 jeunes, 3 ont contracté le nouveau coronavirus. Et pour Mehdi, Marianne et Alexandre, cela a été des moments assez intenses. Ainsi, Mehdi Selami, 28 ans, est chef de projet chez Google à New York. Il a eu beaucoup d'amis qui ont été frappés par le coronavirus. Pour lui, c'était dur mentalement.
J'ai beaucoup d'amis qui l'ont eu, des colocs entières qui sont tombés les unes après les autres. Après, on a la chance d'être, je pense, dans une tranche de la population qui est rarement affectée de manière sévère. Et compare ça avec une grippe ou un rhume, etc. Là, c'est différent, ça dure beaucoup plus longtemps, ça dure minimum 10 à 2 semaines. C'est quand même assez anxiogène parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et surtout par rapport à moi, mon travail était complètement dans le coronavirus. Donc en fait, je vivais à 200%. J'avais le coronavirus, j'étais testé positif. Toute la journée, je parlais de ça. Je voyais l'expansion à travers le monde, etc. Donc c'était dur mentalement. Je pense en 2 mois, ma vie était que ça.
Alexandre Avignon, 28 ans, est rapporteur à la Cour nationale du droit d'asile à Paris. Lui, il a carrément eu peur de mourir.
Alors moi, j'ai pas été testé positif parce qu'en fait, à l'hôpital, ils testaient que les personnes qui étaient dans des cas cliniques sévères. Donc, si vous voulez, la simple perspective qu'on vous dit, on vous renvoie chez vous avec du Doliprane, en fait, était d'emblée angoissante, quoi. Moi, je l'ai eu fin mars et en fait, c'est là où il y avait pas encore beaucoup d'informations et du coup, cette incertitude qui régnait était anxiogène. C'est vrai que c'était particulier à traverser.
Marianne Billard, aussi âgée de 28 ans, est chargée de projet inclusion numérique à la Caisse des dépôts à Paris. Ce qui l'a marqué et l'a beaucoup aidé pendant sa convalescence fut la communication, l'entraide et le soutien entre amis.
Le mois de mars, c'est le pire de ma vie. J'avais une fracture, je ne pouvais pas me déplacer. Il y avait un côté confinement dans le confinement que je trouvais hyper difficile. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionnée, ça a été le fait qu'on ait tous pris beaucoup soin les uns des autres. Je trouve qu'on a beaucoup communiqué entre nous. On s'est beaucoup soutenus, quelle que soit l'heure parfois. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose de très important dans la convalescence. Et pareil, il y a eu des épisodes où on ne savait rien, donc on nous annonce des choses hyper difficiles. Puis en fait, non. Enfin, il y avait un petit peu cet amalgame de choses. Et un peu comme Mehdi, moi, je travaillais en lien sur les questions de Covid à ce moment-là, mais plus pour aider les gens qui n'avaient pas accès au numérique. En tout cas, le sujet, le mot Covid sortait toutes les secondes. Mais au moins, j'avais l'impression de faire quelque chose d'utile. Donc, ça me permettait, même en étant pas très bien, de continuer à bosser, en fait, à me changer les idées, quoi.
Mais elle a pu aussi être témoin des inégalités flagrantes qui touchent les personnes considérées comme essentielles.
J'avais une fracture, donc j'avais des examens médicaux obligatoires à faire à ce moment-là. Et donc, comme je ne pouvais pas me déplacer, j'étais contrainte de prendre donc des Uber. Mais de voir cette violence hyper visuelle quand il n'y a plus personne dans la rue, le chauffeur Uber, il est noir dans la rue. Le chauffeur Deliveroo qu'on voit passer, il est noir dans la rue. L'aide-soignante qui nous accueille, elle est noire. La personne de l'accueil, elle est arabe dans la clinique. Et là, on se dit, en fait, toutes les personnes qui sont invisibilisées d'habitude, on voit d'un coup ces inégalités qui nous pètent à la gueule, en fait.
Donc ces jeunes, sont-ils optimistes, pessimistes pour leur avenir? Comment envisagent-ils leur bonheur? Et veulent-ils des enfants? Des questions auxquelles ces 20-30 ans ont essayé de répondre avec Frédéric Bedos. Pour Géry André, 22 ans, poète et étudiant en sociologie à Sciences Po à Paris, il est vraiment difficile de connaître l'avenir et il n'attend pas grand-chose. Pourquoi ?
Parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait. Même si on projette de la positivité, de la négativité, il se peut que le résultat soit complètement différent de ce qu'on imaginait. Rien que, par exemple, le coronavirus, on n'aurait jamais imaginé en France être confiné entre quatre murs, ne pas pouvoir sortir ou faire de choses importante pendant plusieurs mois. Donc honnêtement, je ne me projette pas trop. C'est à la fois parce que dans ma personnalité, je ne suis pas une personne qui se projette très très loin dans le temps. Et c'est aussi parce que je prends en compte la situation actuelle et je me dis, mais il y a de fortes chances pour que je ne survive même pas ces prochaines années ou alors dans des dizaines d'années. Enfin, je ne parle pas pour tous les jeunes, évidemment, ou pour tout le monde, mais moi, en l'occurrence, je suis un jeune qui a des affections chroniques, qui est asthmatique. Et je me dis que déjà en partant avec ça, je n'ai pas une longue espérance de vie. Tout ça fait que je ne me projette pas trop dans le futur. Je me dis qu'au moins, je sais que le monde tel qu'on le connaît va sûrement arriver à son terme d'ici des décennies, peut-être moins, peut-être plus. J'espère qu'on pourra trouver collectivement les solutions, la résilience, la créativité, la motivation pour faire face à ces changements de façon juste. J'espère qu'on sera assez en vie et assez en bonne santé pour profiter de la chance qu'on a eue à vivre dans cet univers-là, dans cette dimension-là. J'essaie de me satisfaire de ce que j'ai déjà pu avoir parce que dans des millions d'années, on ne sera plus rien, on ne sera même plus un souvenir et il n'y aura personne de notre espèce pour se souvenir qu'on a été là, quoi. Donc ça m'inquiète et ça me rassure un petit peu à la fois, quoi.
Quant à Marie-Anne Billard, elle espère que le collectif sera mis au centre des discussions et elle veut créer des petits guerriers pour continuer des projets sur la Terre.
Moi, je suis quelqu'un qui est une utopiste pessimiste, du coup, ce qui fait de moi quelqu'un de quand même enthousiaste. Donc, je crois quand même un petit peu en l'avenir. Et donc, pour moi, le plus important, et ce que j'espère profondément, c'est que le collectif va vraiment être mis au centre. Je pense que c'est la dimension qui nous a tous beaucoup manqué pendant plusieurs décennies. Et sur les enfants, et ce que je trouve aussi important, c'est que c'est pas mal de peupler la Terre. Donc, je pense que c'est bien aussi qu'on transmette un peu ces messages-là. Et je voudrais des petits guerriers et guerrières qui puissent mener des projets collectifs pour la Terre.
Et pour Alexandre Avignon, son expérience avec la Covid-19 lui a donné une bouffée de vie.
Comme j'ai eu le corona, ça m'a pas mal perturbé. Du coup, je me suis pas mal interrogé aussi sur le rapport que j'avais à la mort. Tellement j'ai eu peur de mourir, en fait, je me suis dit, bon voilà, chaque instant est précieux. Et donc, du coup, ça m'a vraiment donné envie de profiter de chaque moment. Et donc là, je rejoins un petit peu Jerry sur la projection. Parce que le futur, c'est quoi? C'est un éternel présent. Donc, j'espère pouvoir vivre plein de moments présents et de rassérénir un petit peu mon rapport à la mort, comme ça, bon, quand ça veut dire le pacte qu'on fait quand on est, c'est quand on meurt, donc vaut mieux être à l'aise avec cette idée là. Et donc, moi, c'est vraiment ce que j'envisage pour moi. Et j'ai l'impression que parfois l'essentiel il est franchement ailleurs, et ça, je m'en rends compte quand je voyage. Et en fait, j'aimerais bien que ce soit un état pérenne, c'est-à-dire ne pas simplement me dire ouais, je kiffe voir ça quand je vais en vacances, mais en fait, le vivre de manière constante. Après, sur les enfants, moi je suis gay, donc ça se pose dans des termes qui sont quand même un petit peu différents. Disons que ça va pas arriver comme ça du jour au lendemain, pour ainsi dire. Mais c'est vrai que j'ai eu des phases, en fait, où j'avais vraiment envie d'avoir des enfants, et d'autres phases où vraiment ça m'intéresse plus, ne serait-ce que pour l'empreinte écologique, pour qu'est-ce qu'on va leur laisser. Et du coup, je me suis interrogé sur à quel type de besoin, en fait, ça répond d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un besoin qui est purement, biologique? Est-ce que c'est une éternelle recherche de l'immortalité? On veut continuer le game alors qu'on n'est plus là? Donc là, je suis sur la réflexion et pour le moment, c'est cool.
Mehdi Selami, qui a aussi contracté la Covid-19, est très optimiste pour l'avenir. Et la période de confinement lui a permis de réfléchir et à grandir aussi.
Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que les cartes ont été rebattues et que le but, c'est de, voilà, avec ce nouveau jeu de cartes, qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut en faire. En tout cas, moi, ce que j'essaie d'avoir, c'est d'être le plus flexible possible, donc avoir le moins d'attaches, des attaches physiques, matérielles, mais aussi, c'est aussi mental. Enfin, c'est quoi la définition du bonheur, etc. D'être aussi super reconnaissant des choses qui sont positives. Je pense que cette période de confinement, moi, j'aurais bien aimé avoir encore plus le temps de réfléchir sur ces points-là, de comprendre que justement le retour à la nature, c'est un point essentiel. J'aurais jamais eu toutes ces réflexions-là sans cet événement. Donc j'essaie de me concentrer sur à quoi ça a poussé, comment ça peut nous pousser à grandir aussi et à réfléchir. Donc ça, après, sur les enfants, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est oui, je vais avoir des enfants, mais par contre, je vais les adopter. Ça répond en fait un peu entre pas avoir d'empreinte, enfin, pour penser à la planète, mais en même temps, toujours éduquer des petits guerriers. En fait, tu peux correspondre d'eux parce que c'est des gens qui existent, enfin, qui sont déjà vivants et qui peuvent leur donner une vie peut-être meilleure. Transmettre en fait cette éducation-là sans créer un poids supplémentaire sur l'avenir.
Tout un autre propos pour Anaïs Boursier. 25 ans, elle est ingénieure en agroécologie et installée en tant que boulangère paysanne en Bretagne. Elle ne sait plus en quoi elle croit et elle est davantage dans le présent.
Alors moi, je suis plutôt très pessimiste. Je crois à plus rien. Et du coup, je crois plus en effet à l'épaisseur du présent. Je crois que je suis dans une espèce de schizophrénie, d'essayer de comprendre le monde, d'essayer de m'instruire, d'aller vraiment chercher en profondeur les choses et en même temps de me raccrocher dans ma vie à des choses beaucoup plus petites et beaucoup plus simples pour tenir en fait tout simplement parce que sinon moi je crois que je prends en pleine face toute l'horreur du monde et vu que j'ai pas beaucoup d'espoir en l'humanité, c'est terrible hein, de dire ça, hein. Je sais qu'il y a plein de gens très bien mais j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi quand même des gens assez fous et qui ont beaucoup de pouvoir et ça existe depuis tout le temps dans l'histoire et du coup j'ai un peu un truc en moi qui me dit que ça va continuer à arriver. Du coup, je pense que mon avenir, je sais pas du tout à quoi il va ressembler. Je préfère pas trop y penser. J'essaie de... Un peu comme l'écologie, quoi. Genre, en fait, on n'est pas assez puissants, nous, petits individus, pour le faire changer. Mais bon, on essaye quand même de se raccrocher à ça parce que sinon, en fait, il nous reste pas grand-chose, quoi. Et les enfants, ouais, c'est un vaste sujet. Moi, je suis plutôt avec des gens qui veulent pas d'enfants parce que écologique, parce que militantisme en général, quoi. En fait, quelle vie on leur donne quoi en mettant au monde des êtres humains aujourd'hui, c'est pas top. Et en même temps, du coup, il y a l'autre part de moi, plus sensible et tout, qui me dit que j'ai très envie de ça. Et je me dis, bah en fait, vu qu'on faut se raccrocher à des plus petites choses, si ça peut être un petit rayon de soleil mis dans ma vie et dans celle d'autres personnes et peut-être dans le monde.
Samuel Grybowski, 28 ans, cofondateur de l'association Coexister et enseignant à Sciences Po à Paris. Pour lui, s'il y a un sens de la vie sur Terre, il faut essayer de la rendre pour chacun et chacune un peu mieux qu'on l'a trouvé en arrivant.
Moi, je suis très, très, très optimiste. J'ai tellement hâte de vivre cette putain de vie et ce putain de siècle. En fait, le constat, c'est que c'est grave la merde, qu'il y a des 30 000 trucs à détruire, etc. Mais partant du principe qu'en plus, on n'attend plus grand-chose, justement, ça augmente mon niveau d'optimiste. Ma devise depuis que je suis gamin, c'est une phrase de Baden-Powell qui disait « Essayez de repartir de ce monde en l'ayant laissé un peu mieux que vous l'avez trouvé en arrivant ». Et j'ai mis 8 ans à entendre le « essayer » et le « un peu ». C'est-à-dire que quand j'étais ado, j'entendais repart de ce monde en l'ayant laissé mieux que tu ne l'as trouvé en arrivant. Et quand j'ai compris le essayer et le un peu, ça a créé une énorme liberté en moi. J'ai jamais été aussi apaisé. Et je peux mourir demain, je suis en train d'essayer, donc c'est bon. Et un peu par ce que je bouffe, par les relations humaines qu'on tisse, par les projets qu'on monte. Et je sais pas, je trouve que c'est ça qui fait sens. Et pour moi, ce qui me rendrait pessimiste, c'est d'être séparé des autres, que plus personne ne puisse porter le flambeau de quoi que ce soit. Et pour moi, la foi, même au-delà de la question foi spirituelle, la foi humaine, j'ai envie de dire, c'est de pas douter dans l'obscurité de ce qu'on a un jour vu dans la lumière. Et on a tous vu un jour quelque chose de cette lumière, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Et donc, ouais, je suis hyper optimiste et je suis à la fois extrêmement en colère des choses sur lesquelles on est confronté. En même temps, il y a un sacré calendrier d'action, de choses à entreprendre maintenant et à vivre. Et ouais, hyper excité à l'idée de le faire ensemble, quoi.
Enfin, Angelina Munch, 22 ans, musicienne, professeure d'instruments et féministe, habite à Londres. Elle a du mal à se projeter dans l'avenir et essaye de trouver la joie dans le présent.
Alors, moi, je ne sais pas trop si je suis optimiste, pessimiste. Enfin, je ne pense pas vraiment en ces termes. Ces derniers temps, j'ai vraiment eu une volonté de me reconnecter à mon corps, à mes sens. Et en fait, j'essaye juste de trouver la joie dans le présent et dans les moments que je peux partager avec des gens qui sont conscients, avec qui on peut discuter, et qui partagent mes convictions. Et il y a d'une part beaucoup d'indignation et colère, mais aussi d'espoir, parce que je vois beaucoup de choses très belles qui se passent en ce moment. Et en fait, même cette joie du moment présent, je la trouve beaucoup dans la lutte, dans le fait d'avoir des aspirations, des engagements communs, et le fait de faire des actions, d'aller sur le terrain, d'aller en manif, etc., ça te reconnecte aussi à ces émotions qu'on peut vivre collectivement. Donc pour l'instant, c'est ça, c'est trouver la joie dans la lutte.
On termine avec un mot d'encouragement de Frédéric Bedos à tous ces jeunes qui font face à un avenir incertain.
Unissons nos forces et je crois tout simplement apprenons à aimer. Il faut qu'on apprenne à nous aimer, nous, entre êtres humains, à aimer cette planète, à aimer le monde du vivant qu'elle abrite. Et peu à peu, apprendre à prendre soin, être délicat, être doux. Vous avez de belles âmes et c'est ça qui compte. Continuez d'écouter votre cœur, la petite voix intérieure. Elle saura vous guider. Ce ne sera pas simple tous les jours, mais ça vaudra la peine.
Et c'est avec les paroles de Frédéric Bedos que se termine ce podcast Escale. Merci au projet Imagine de nous avoir permis d'utiliser une partie de leur webinaire sur comment les jeunes de 20-30 ans envisagent le monde post-Covid. Tous nos programmes d'ONU Info sont à retrouver sur Internet et sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau podcast Escale.